c'est l'heure fatidique de la digestion. Ce matin, nous avons fait un effort important pour comprendre le contexte biblique du projet de Dieu, projet qui vise à tout réconcilier en Christ. C'est important car si nous ne faisons pas cet effort, il est tout à fait possible que nous projetions notre propre contexte, nos propres questions sur l'Écriture. Cela est légitime, mais seulement après avoir fait l'effort de comprendre ce que l'Écriture veut nous apprendre. Mais cet après-midi, nous allons parler non pas du contexte biblique, mais de notre contexte. Pour être en mission dans son contexte, nous avons vu à quel point Paul soulignait sans cesse le grand projet de Dieu, projet qui remonte à la création, qui traverse l'histoire pendant des siècles. Pour bien saisir son propre contexte, l'apôtre s'est d'abord assuré de situer son maintenant et aujourd'hui dans l'histoire de son peuple, dans l'aventure de la promesse de Dieu à Abraham. Et entre nous et Paul, il y a bien 2000 ans. Et il nous est impossible d'être en mission comme si rien ne s'est passé entre-temps. Car notre mission se situe aussi dans un contexte. J'ai évoqué ce matin le fait que pour commencer le Nouveau Testament, Matthieu raconte tout simplement la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à Abraham. C'est-à-dire, il nous dit qu'on ne peut pas raconter l'histoire de Jésus sans le placer dans ce contexte plus large. Et puis, je me suis aussi rappelé qu'entre l'histoire de la tour de Babel et l'appel d'Abraham, il y a encore une généalogie qui se termine avec la famille d'Abraham, comme pour dire Abraham se trouve dans ce monde bien concret des familles dispersées, séparées par la tour de Babel. La mission se fait dans l'histoire, et pour comprendre notre mission aujourd'hui, nous devons aussi faire l'effort de nous situer par rapport à notre propre histoire. Et donc cet après-midi, je vais, pour mieux souligner la mission dans notre contexte, faire un peu de généalogie, c'est-à-dire nous situer, dire là où nous nous trouvons aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul s'adressait aux Romains, quand il expliquait aux chrétiens d'origine païenne qu'ils entraient désormais dans le projet de Dieu en Abraham, il leur demande d'être conscients de leur passé. Il leur demande de ne pas oublier la racine qui les porte. Je cite en Romains 11, à partir du verset 17, « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, Olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas te faire le fier aux dépens des branches. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et je me suis posé la question, sommes-nous conscients de la racine qui nous porte pour être ici aujourd'hui? Dans les discussions ces dernières années sur la mission en France, sur l'implantation d'églises en France, j'ai entendu des remarques intéressantes, parfois critiques, sur notre identité mennonite. Les mennonites ne sont pas missionnaires, les mennonites ne peuvent pas implanter des églises. Ils ne font que rester chez eux. Et puis, être mennonite, ça ne veut rien dire. Nous sommes surtout évangéliques, implanter une église mennonite, ça n'aurait pas de sens. Remarque intéressante. Remarque qui font référence à notre passé. Remarque qu'il faudrait, je pense, prendre au sérieux. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai, si être mennonite se limite à porter un certain nom de famille, à faire partie d'une tribu, si pour être mennonite, il faut naître mennonite, là nous nous retrouvons dans le contexte du premier siècle. Ou simplement, il suffit de naître au bon endroit, au bon moment, pour avoir la faveur de Dieu. Et une telle compréhension d'être mennonite mérite la même critique que Jésus a fait à son époque. Il ne suffit pas de dire que nous avons Ménon pour père. De ses pierres, Dieu peut susciter des enfants de Ménon, d'Abraham. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Romains 9, 10 et 11, Paul pleure, Paul est critique à l'égard de son peuple. Mais nous voyons aussi qu'il aime son peuple. Il souhaitait de tout cœur que ce peuple reste ancré dans le projet de Dieu. Et si nous critiquons notre passé, ce qui est tout à fait possible et même nécessaire, nous pouvons aussi apprécier la racine qui nous a porté jusqu'ici. Nous pouvons faire l'effort de comprendre pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Et donc, je fais un peu de généalogie. Si les Mennonites sont devenus une minorité ethnique vivant à l'écart, il y a des raisons. Au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme, en dehors de l'anabaptisme, aucun mouvement réformateur n'a produit un essor missionnaire tel que nous le comprenons aujourd'hui. Luther et Calvin n'ont jamais envoyé des missionnaires pour annoncer l'Évangile. Les anabaptistes, à cause de leur théologie renouvelée du baptême, ont prêché l'Évangile publiquement, appelant au changement de vie, souvent au risque de leur propre vie. Les anabaptistes ont compris que pour baptiser et faire des disciples, il fallait, comme le dit Matthieu 28, enseigner tout ce que le Christ a prescrit. Et dans Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. On n'est pas disciple sans connaître l'enseignement du maître, sans le suivre. Par contre, les réformateurs classiques se sont servis des princes pour imposer l'évangile dans les territoires devenus luthériens, se sont servis des conseils municipaux dans les villes devenues réformées. Et la christianisation de l'Europe au XVIe siècle s'est faite d'en haut, souvent par l'imposition. Et les différences entre les confessions ont abouti à des décennies de guerres de religion, des décennies d'intolérance, de persécution, de mise à mort. Et dans ce contexte difficile, puisqu'ils voulaient un christianisme professant, basé sur l'annonce de l'Évangile et un baptême en connaissance de cause, puisqu'ils voulaient une Église séparée des pouvoirs politiques, puisqu'ils refusaient la violence au nom du Christ, les anabaptistes ont été considérés hérétiques, hors la loi. Et avec le temps, ils ont été obligés de vivre soit à l'écart, soit émigrés, soit au-dessus de 1000 mètres, comme dans le Jura bernois. Et dans ces conditions, ils sont devenus effectivement un peuple à part, vivant aux marges. Ils ont pu s'installer en Alsace à condition de ne jamais parler de leurs convictions, parce qu'ils étaient hérétiques. S'ils n'en ont pas parlé, ils ont quand même continué à les vivre, à se faire remarquer. Mais avec le temps, en vivant à l'écart depuis des générations, c'est devenu une manière de vivre. Et avec le temps, ils ont peut-être oublié la radicalité de leur message. Mais pendant des générations, ils ont maintenu, ils ont transmis ce message. De manière, certes, imparfaite, de manière parfois peut-être légaliste, mais ils l'ont maintenu, ils l'ont transmis. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, je suis bénéficiaire de ceux qui ont quitté l'Europe, qui ont transmis ce message en Amérique du Nord. Mes parents étaient mennonites, mais je n'ai pas grandi dans un contexte mennonite. Et vers mes 20 ans, je suis revenu pour des raisons proprement théologiques. J'y ai découvert quelque chose de précieux dans cette tradition que je n'ai pas vue ailleurs. Et il était de même pour ma femme, Jenny. Nous sommes devenus mennonites à l'âge adulte, par conviction. La théologie que nous avons découverte a été transmise par une ethnie suisse-allemande. C'est bien la racine qui a porté ce message pendant des générations, sinon des siècles. Mais c'est cette théologie qui se trouve à l'origine de notre désir de devenir missionnaire. Je suis au bénéfice de ceux qui ont quitté l'Europe. C'est la racine qui me porte. Et c'est certainement une des ironies de l'histoire qu'une famille chrétienne à l'origine de la vision d'une église de professants est devenue une église familiale et ethnique où l'on devient membre par naissance. On peut le critiquer. Il faut d'abord chercher à comprendre. On peut le critiquer, non pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour apprécier la radicalité du message et le courage de ceux qui l'ont vécu souvent de manière très simple. On peut le critiquer, mais à leur place, est-ce qu'on aurait mieux fait ? Nous savons que c'est en train de changer. Le monde mennonite en Europe, en France, est en train de s'ouvrir. Nous voyons des personnes, des familles qui intègrent nos assemblées sans le bagage ethnique, sans arrière-plan. Nous voyons même une église du midi de la France venir vers nous à cause de l'héritage théologique qu'ils voient dans notre histoire. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Si je faisais l'effort de traduire en termes bibliques et théologiques les intuitions anabaptistes au XVIe siècle, on arriverait très près de ce que nous avons vu ce matin en termes bibliques. Hein. Une vision de réconciliation portée par une communauté renouvelée vers le monde. En région parisienne, depuis des années, nous découvrons une théologie de paix et de réconciliation entre races et ethnies différentes. Ce n'est pas très alsacien, ce n'est pas non plus très mennonite de Goshen ou de Lancaster ou de Winnipeg. Mais cette racine qui a transmis un message, c'est cette racine qui transmet un message qui maintenant trouve de nouvelles situations pour s'exprimer. Au début de ce qu'on appelait la communauté chrétienne du foyer Grebel, qui est devenue l'église de Saint-Maurice, maintenant l'église de Villeneuve-le-Comte, au début, je ne croyais pas qu'on pouvait implanter une église mennonite en région parisienne. J'ai eu tort, heureusement. Nous avons découvert que Mennonite n'est pas une marque ethnique. C'est une manière de comprendre et de vivre l'Évangile qui peut attirer d'une manière étonnante. Une fois qu'on fait la part entre le bagage du passé et le message lui-même. Pour être en mission aujourd'hui, nous devons être conscients de la racine qui nous porte. Car entrer dans un ministère de réconciliation implique peut-être une réconciliation avec notre passé. Ne pas en avoir honte de façon exagérée, non plus le tenir pour parfaite ou au-dessus de toute critique. Mais c'est la racine qui nous a portés jusqu'ici. Vous me direz avec raison, mais les Mennonites ne sont pas seuls. Ils ne sont probablement même pas les meilleurs. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, l'une des racines qui nous porte, c'est ce passé anabaptiste. Mais ce n'est pas la seule racine. Pendant 15 ou 16 siècles, cette racine s'appelle catholique. C'est donc la racine la plus longue et celle avec laquelle nous ne savons pas quoi faire. Donc on l'oublie. Et puis, beaucoup plus récemment, nous sommes nourris par d'autres racines. Le piétisme et plus récemment le monde évangélique et surtout depuis une centaine d'années, les Mennonites français ont profondément bu à la fontaine évangélique. Et sans cette fontaine-là, nous aurions probablement disparu. Sommes-nous conscients de la racine qui nous porte? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que c'est en partie pour ce type de raison que nous entendons de temps en temps qu'être évangélique est plus important que d'être mennonite. Peut-être. Mais si c'était si simple que cela, derrière le mot évangélique se trouve un monde très vaste et très divers. Est-ce qu'on est évangélique de type frère et donc anti-pasteur ou évangélique baptiste, tout à fait ouvert à des pasteurs à plein temps? Ou si on est baptiste, est-ce qu'on est baptiste calviniste ou baptiste arminien? Est-ce qu'on est évangélique réformé ou évangélique anglican, baptisant les enfants, appréciant un lien plus proche avec l'État? Ou est-ce qu'on est évangélique charismatique ou pentecôtiste, coincé, rationaliste, fondamentaliste, ouvert, évangélique Fédération protestante de France, évangélique Fédération évangélique de France, congrégationaliste ou synodal? Est-ce qu'on est évangélique américain, patriote, nationaliste ou évangélique français minoritaire, laïque, votant peut-être même à gauche? Tout ça pour dire simplement qu'une identité évangélique n'est pas forcément plus simple, ce n'est pas forcément plus neutre, ça n'évacue pas toutes les questions. C'est tentant de se dire tout simplement évangélique, tout simplement chrétien, je voudrais un monde où ce serait possible. Mais ça laisse un tas de questions ouvertes qu'on rencontre tout de suite sur le terrain missionnaire. Et nous devons chercher à comprendre le contexte ici et aujourd'hui si nous voulons être en mission. Et une partie fondamentale de notre contexte, c'est l'héritage laissé par l'histoire du christianisme en France. Et nous ignorons cet héritage à nos risques et périls. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens en France. Nous ne sommes pas seuls à faire de la mission. Nous ne sommes pas seuls qui évangélisent. Nous sommes héritiers aussi d'une histoire chrétienne longue qui remonte au deuxième siècle. Une histoire longue et complexe. Histoire qui est d'abord et pendant longtemps exclusivement catholique. Et puis au XVIe siècle, il y a la rupture de la réforme. Et en France, le mouvement réformé calviniste, mais avec plein de ruptures dans le monde protestant, luthérien, zwinglien, anabaptiste, anglican. Et ces ruptures ont amené des guerres de religion. La France a connu un demi-siècle de guerre civile. L'Alsace a été dévastée pendant la première moitié du XVIIe siècle par la guerre de 30 ans.
La Lorraine aussi. La Lorraine également.
Oui, excusez-moi. La dévastation était telle qu'on a trouvé une utilité aux hérétiques anabaptistes et on les a fait venir pour remettre en place les morceaux. C'est peut-être l'origine d'une tradition de type MCC. Là où il y a de la classe, casse, on y va. Mais les guerres de religion en France et ailleurs en Europe ont largement contribué au rejet de la religion que nous vivons aujourd'hui. La Révolution française s'est faite contre l'Église catholique. Et le XIXe siècle a vu un combat pour la laïcité, contre la religion. Désormais, la religion est une affaire privée. Depuis un siècle, on peut croire ce qu'on veut, mais beaucoup s'en méfient. Pour beaucoup, la religion est source de conflits, source de guerres. Et les événements contemporains au Moyen-Orient confirment cette analyse pour pas mal de gens. C'est-à-dire, nous ne venons pas en terrain neutre avec l'évangile de la réconciliation. Des gens ont déjà certaines idées. Il y a un passé français et européen qui empêchera certains à nous prendre au sérieux, au moins dans un premier temps. Nous le savons, pour beaucoup de nos contemporains, chrétien signifie d'abord, surtout catholique, évangélisation signifie prosélytisme, propagande. Ou en région parisienne, j'ai souvent découvert qu'être évangélique signifie être à la traîne du monde politique américain. Et en région parisienne, être mennonite, ça ne signifie rien du tout. Et puis les églises se vident d'Européens et se remplissent de chrétiens issus de l'immigration. Et cet aspect récent de l'histoire de l'Église n'est pas non plus à négliger. Nous avons un pasteur coréen, nous avons un pasteur guadeloupéen. À Strasbourg, il y a un ancien rwandais. Le président de notre commission des ministères est sénégalais. Si ce n'est pas un changement, je ne sais pas ce que c'est qu'un changement. Saurons-nous, dans notre mission, laisser tomber l'idée que le christianisme appartient à l'Occident? Saurons-nous ouverts à la présence de ces chrétiens parmi nous et dans nos églises? C'est dans ce contexte quand même compliqué que nous voulons être en mission. Et la mission, le mouvement missionnaire contemporain, protestant évangélique, remonte au début du XIXe siècle, à l'époque même de la Révolution française. Et très tôt, les missionnaires ont découvert que les divisions entre chrétiens posent un problème énorme quand on veut témoigner de l'Évangile. Le monde chrétien lui-même a un besoin profond de réconciliation. Les chrétiens européens occidentaux connaissent une histoire impressionnante et décourageante de divisions, de conflits. Et nos identités se sont forgées les uns contre les autres. Il suffit de regarder nos confessions de foi. Comment être en mission dans un tel contexte? Comment parler d'amour, de pardon, de réconciliation, lorsque les chrétiens eux-mêmes sont parfois incapables de parler les uns aux autres? Lorsque les autres sont tout à fait capables de nous rappeler notre passé ambigu, douloureux. Évidemment, il existe une conscience forte de ce problème et des efforts importants pour dépasser la situation. Et si nous voulons être en mission en France, nous ne pouvons pas ignorer ces efforts. Comme si nous pouvions implanter des églises dans un vide. Je ne pense pas qu'avant l'accomplissement final, que les chrétiens seront tous dans une même église. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais une chose est sûre, l'héritage du passé et la situation actuelle des églises nuit tout simplement à l'Évangile et à sa crédibilité. Comment y faire face? Grande question. Comment prendre au sérieux la prière du Christ qui lie l'unité des chrétiens et la mission? Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous aussi. Pourquoi? Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des disciples, d'après cette prière, est importante pour la crédibilité de l'Évangile. Il n'y a pas de solution facile. Et je suis sûr qu'ici, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Mais ce n'est pas si grave que ça. Donc, au lieu d'offrir des réponses, je vais terminer en offrant quelques pistes. Et j'essaie de tenir compte du dossier biblique de ce matin, de notre identité mennonite, mais aussi de la situation actuelle du christianisme en France, en Europe et dans le monde. Quelques pistes. D'abord, premièrement, je crois qu'il est important d'élargir notre compréhension de l'Évangile et du message que nous annonçons, dans le sens de ce projet de la réconciliation en Christ. C'est-à-dire accomplir tout ce que nous faisons dans le cadre du projet de Dieu. Que ce projet nous oriente, qu'il nous porte, qu'il soit notre lumière. La bénédiction de toutes les familles de la terre dispersées depuis Babel. Deuxièmement, nous pouvons être mennonites sans honte, sans complexe, ni complexe d'infériorité, ni de supériorité. Presque tous les éléments de cette vision de la mission comme réconciliation se trouvent dans notre histoire. Même si nous l'avons oublié. Nous bénéficions, et je le vois souvent maintenant, d'une famille mondiale. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un siècle, les Mennonites faisaient plus que la moitié des Mennonites dans le monde. Aujourd'hui, les Mennonites européens composent 4% des Mennonites dans le monde. C'est indicatif de la situation du christianisme en Europe, et aussi des églises Mennonites. Nous avons besoin aujourd'hui de l'Église mondiale. Et elle vient vers nous, via l'immigration et par d'autres moyens. Donc, première piste, évangile de la réconciliation. Deuxièmement, être sans complexe mennonite. Mais troisièmement, être mennonite en étant conscient qu'on n'est pas seul. Étant conscient qu'il y a un contexte chrétien plus large, plus complexe. Être conscient que notre identité vient d'une déchirure appelée la réforme, et au sein de la réforme, et quand notre identité vient d'une déchirure, c'est aussi une identité blessée qui a besoin de guérison. Je dirais que je suis fermement ménonite, mais je ne peux pas l'être sans les autres chrétiens, et je ne veux pas l'être sans les autres chrétiens. Donc, plaçons notre identité, ayons une identité, sans complexe, au moins si on en est convaincu. Moi, je le suis, c'est pour ça que je plaide dans ce sens. Mais cette identité ne peut pas être une identité sectaire ou sans tenir compte des autres. Le monde créé par Dieu a besoin de réconciliation et guérison. Et l'Église, corps du Christ, se trouve dans un état de division et a aussi besoin de guérison et de réconciliation. Autrement dit, la recherche d'unité entre les chrétiens, divisés, ça fait partie aussi de la mission. Nous pourrions implanter autant d'églises que possible, mais s'ils contribuent à maintenir l'état de division, d'accusation mutuelle entre chrétiens, ça n'entre pas dans le cadre de ce grand projet de Dieu. C'est très compliqué. Et comme j'ai dit, on n'est certainement pas d'accord entre nous sur la manière de procéder. Mais quand on n'est pas d'accord, on discute. Et on attend la sagesse les uns des autres et de l'Esprit Saint. Et évidemment, il y a des affinités. Il y a des églises dont nous nous sentons beaucoup plus proches que d'autres. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a des églises avec lesquelles il semble difficile, sinon impossible, de se rapprocher. Nous avons connu plusieurs années de débats autour de la Fédération protestante de France. Ce n'était pas facile. Mais c'est quand même important. Et j'aimerais saluer ceux qui ont transpiré pour nous faire vivre ce débat. Je pense que ce n'était pas facile, mais c'était une tâche importante. Nous pouvons saluer l'effort d'unité dans le monde évangélique qui représente le CNEF, le Conseil national d'évangéliques en France. Il y a plusieurs générations, je ne sais pas si vous le savez, les évangéliques de type classique et les évangéliques pentecôtistes ne se parlaient pas, ne se considéraient pas comme chrétiens. Et donc, il y a des réconciliations importantes au sein du CNEF qu'il faut saluer. Et puis, il faut laisser aux uns et aux autres l'occasion de changer. Une identité, une tradition n'est pas figée, forcément. Que dire des catholiques et des évangéliques qui commencent à se parler en France ? Inimaginable il y a quelques années seulement. Est-ce que c'est une infidélité? Ou est-ce qu'on commence? Ou est-ce que les choses ont changé? Question importante, mais une chose me semble claire. Je pose ça comme une question, non pas comme une réponse, mais il me semble impossible d'évangéliser en France en faisant abstraction totale de la plus importante église qui a marqué l'histoire de cette église, de ce pays. On ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là. On peut, mais ce n'est pas très... Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que nous ne pouvons pas faire comme s'ils ne sont pas là. Et de plus en plus... Et là, je termine. Je me rends compte que la perspective ménonite, quand elle est traduite en termes bibliques et théologiques, et quand on le voit vivre de manière concrète, elle est accueillie très favorablement dans les milieux les plus divers. Les évangéliques nous aiment, au moins souvent. Les protestants nous apprécient. De même que les catholiques qui nous connaissent. Et notre passé, notre approche basée sur l'évangile de la réconciliation peut faire de nous des ponts. Ce qui permet, un pont permet aux autres de se connaître et de se parler. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ou 4 ans, je suis allé au mois de février, je crois 2006, à un colloque sur l'évangélisation de la France. C'était à l'Institut catholique de Paris. Ils ont fait venir Sébastien Fatt, sociologue baptiste, pour parler des évangéliques et de leur manière d'évangéliser. Et pendant 2 jours, j'ai entendu beaucoup de questions sur le monde évangélique, sur les méthodes d'évangélisation et des remarques plutôt positives et qui appréciaient, disant qu'on pourrait apprendre des choses importantes de ce monde-là. Il y avait 4 ou 5 évangéliques présents pendant ce colloque. 2 semaines après, j'ai assisté à un colloque du département de missiologie urbaine de l'Institut biblique de Nogent sur l'évangélisation en France. J'ai entendu les mêmes constats de déchristianisation, de laïcisation, de désir de partager l'évangile, parfois les mêmes analyses. Et je me suis dit, là, il y a 2 groupes de chrétiens qui parlent des mêmes choses, qui ont le même désir. Et ils parlent les uns à côté des autres, tout en s'ignorant. Dans ce même colloque, le doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris a dit « Si nous catholiques, nous voulons évangéliser, nous devons revenir à la spécificité de l'évangile. Nous avons l'habitude de faire partie des meubles, nous pensons que tout le monde nous comprend, tout le monde connaît notre langage. Nous devons revenir aux bases de la foi et à une foi vécue. » Et il a cité « On devrait se rapprocher de la théologie d'un certain méthodiste américain qui s'appelle Stanley Hauerwas, qui a écrit un livre traduit en français sous le titre de « Royaume de paix ». Stanley Hauerwas a enseigné avec John Yoder et il est devenu probablement le meilleur apologète pour la théologie de type anabaptiste aux États-Unis. Et donc le doyen de la faculté de théologie catholique dit « Pour évangéliser, il faut écouter ces gens-là ». 2 semaines plus tard, je fais une pastorale baptiste. Comment être une église multiculturelle en région parisienne? L'orateur principal, à ce moment-là baptiste, aujourd'hui pasteur de l'église de Villeneuve-le-Comte, Jean-Claude Durandin, sans savoir ce que j'avais vécu il y a 2 ou 3 semaines avant, il prend le livre « Royaume de paix » de Hauerwas, il dit « Ça c'est l'ecclésiologie qu'il faut » pour vivre l'évangile aujourd'hui en France. Donc des baptistes bien conservateurs et le doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, il cite un livre qui parle d'une église qui vit l'évangile de la réconciliation. Il y a 30, 40, 50 ans, on n'aurait jamais entendu des choses comme ça. Les circonstances sont telles qu'aujourd'hui, on va regarder vers ceux qui savent vivre en minorité, ceux qui savent transmettre et vivre la foi. Et dans ce contexte, nous pouvons être nous-mêmes, sans honte. Il faut des ponts, des artisans de paix. D'après notre Seigneur, ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif, ça fait partie intégrante de l'évangile et de l'évangélisation. Être des églises du mur brisé implanter des communautés annonçant et essayant de vivre la réconciliation que Dieu nous offre, être des églises qui osent aller vers ceux qui se réclament aussi du Christ, quel qu'il soit, être ceux qui posent des signes du projet de Dieu dans ce monde. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose de plus passionnant, de plus important à faire aujourd'hui dans notre monde? Je ne le pense pas. Et je plaide pour que nous allions dans ce sens, pour entrer dans le projet de Dieu qui veut guérir et restaurer notre monde. Je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y aura des questions. Je voulais dire une chose. Il ira bientôt fin de ce mois. Non, on est en novembre. Donc, au courant du mois de novembre, un livre va être publié qui s'appelle « Salut et rédemption ». C'est un ouvrage collectif sous la direction de Claude Becher aux éditions Excelsis, Collection Perspectives et Baptistes, où il y a un chapitre qui s'intitule « Le salut, réconciliation comme salut, le salut comme réconciliation ». Bon, l'auteur est là, il peut me dire le titre exact, c'est Pascal qui a écrit ce chapitre. Mais là, il prend le dossier biblique des évangiles et des épîtres de Paul et il montre à quel point la réconciliation se trouve au cœur de l'évangile et au cœur de la vie de l'Église. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est toi qui vas gérer les questions?
Je vais passer le micro. Donc c'est un temps de questions.